Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1957 et préfacé par Jean-Paul Sartre, Portrait du colonisé, précédé de Portrait du colonisateur, est un essai majeur de Albert Memmi sur la situation coloniale. Né à Tunis, dans une famille juive arabophone, formée dans les institutions françaises. Memmi écrit depuis une position traversée par plusieurs appartenances et par les inégalités du protectorat. Le livre ne raconte pas une colonie particulière, il construit deux figures sociales, le colonisateur et le colonisé. Afin de montrer comment un ordre politique organise leur conduite, leur représentation et leur possibilité de choix. Sa thèse centrale est relationnelle, la colonisation ne produit pas seulement une population dominée. Elle façonne aussi ceux qui profitent de la domination et cherchent à la justifier. Memmi examine les privilèges matériels, les stéréotypes racistes, le désir impossible de assimilation et la formation de la révolte nationale. Concis, rigoureux et directement lié aux décolonisations de son époque. Cet essai demeure une référence pour analyser les effets sociaux et psychologiques durables des rapports de domination. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le privilège colonial transforme le colonisateur en usurpateur. Memmi refuse de réduire le colonisateur à une simple origine européenne ou à une intention individuelle, dans la situation coloniale. Même le colon aux ressources modestes bénéficie comparativement de droits, de protection administrative, de possibilités économiques et de conditions de vie refusées à la majorité indigène. Ce différentiel constitue le noyau matériel de la domination. Le colonisateur est donc un privilégié, y compris lorsqu'il ne se considère ni riche ni cruel. Memmi le qualifie de usurpateur parce que ses avantages reposent sur un ordre qui ne peut se légitimer par une égalité réelle entre habitants. Cette analyse explique la contradiction du colonisateur libéral ou de gauche. Il peut désapprouver les violences, défendre des réformes et éprouver de la culpabilité, tout en restant attaché aux bénéfices concrets que garantit le système. Une opposition morale sans renoncement aux privilèges ne suffit pas à sortir de la structure coloniale. Le livre met ainsi en évidence une limite politique importante. Le problème ne réside pas seulement dans les abus de certains acteurs, mais dans une organisation qui répartit inégalement droits, travail, dignité et sécurité. Cette approche rend intelligible le passage de la bonne conscience à la rationalisation, puis à la défense ouverte de ordre établi. Deuxièmement, les stéréotypes racistes servent à rendre la domination acceptable. Le portrait du colonisateur montre que le racisme colonial ne constitue pas un simple préjugé isolé. Il remplit une fonction de justification. Puisque la domination procure des avantages indus et suppose la dépossession politique des indigènes, elle doit être présentée comme normale, utile ou inévitable. Les descriptions du colonisé comme paresseux, incapable, sale ou dangereux transforment alors les conséquences de la domination en prétendues caractéristiques naturelles. Les bas salaires, le manque de formation et la précarité ne sont plus perçus comme les produits du système, mais comme des preuves supposées de l'infériorité de ceux qui les subissent. Memmi analyse donc une mystification, le colonisateur fabrique une image dévalorisante pour éviter de reconnaître sa responsabilité et pour maintenir une distance entre les groupes. Cette opération affecte également le colonisateur lui-même. Elle lui procure une identité valorisée par contraste avec une population abaissée, mais elle révèle aussi la fragilité de sa propre légitimité. Le recours au patriotisme, au prestige de la métropole ou à une mission civilisatrice cherche à combler cette faille. Le livre invite ainsi à étudier le racisme comme une technologie sociale de pouvoir, liée aux intérêts, aux institutions et aux récits qui soutiennent un privilège. Troisièmement, le colonisé est enfermé dans une image imposée et dans la carence organisée. Dans la seconde partie, Memmi étudie la condition du colonisé à partir de la privation de droits, de moyens et de reconnaissance. Le colonisé ne subit pas seulement une autorité étrangère, il vit dans une société où les possibilités de travail qualifiées, de participation politique, de mobilité et de représentation sont structurellement limitées. Cette carence permanente nourrit une dépendance concrète, tout en produisant une humiliation répétée. Le colonisateur impose également un portrait du colonisé, construit à partir de défauts supposés et diffusés comme une vérité collective. Memmi montre le danger de cette image, une population sans pouvoir peut finir par intérioriser partiellement le regard qui la dévalorise. Il ne décrit pas cette intériorisation comme une essence ou une faiblesse morale, mais comme un effet de conditions sociales durablement imposées. La domination atteint donc la manière dont les personnes se perçoivent, évaluent leurs capacités et imaginent leur avenir. Cette dimension psychologique ne remplace jamais analyse économique et politique. Elle en révèle les prolongements intimes. Le livre permet de comprendre pourquoi une hiérarchie coloniale persiste au-delà de ses lois explicites, elle agit aussi par les habitudes, les attentes et les images collectives. La dignité devient alors un enjeu central de toute libération, au même titre que les droits et les ressources. Quatrièmement, assimilation refusée et révolte rendent visible une impasse structurelle, même y accordent une place essentielle à la tentative de assimilation. Pour une partie des colonisés, adopter la langue, les normes et les références de la puissance dominante peut sembler offrir une voie vers égalité. Or, la colonisation a besoin de maintenir une frontière entre dominant et dominé. Elle ne peut donc accorder pleinement aux colonisés assimilés la place politique et sociale que cette promesse semble annoncer. Assimilation devient un mirage, elle exige souvent un éloignement de la culture propre, sans procurer la reconnaissance recherchée. Cette contradiction éclaire la naissance de la révolte. Celle-ci ne relève pas, chez Memmi, d'une passion inexplicable ou d'une agitation accidentelle. Elle répond à une situation où la réforme limitée conserve les rapports fondamentaux de dépendance et où intégration véritable demeure inaccessible. La revendication nationale apparaît comme une tentative de récupérer capacité de décision, mémoire collective et dignité. Le raisonnement évite deux simplifications. Il ne présente pas le colonisé comme naturellement révolutionnaire, car les contraintes peuvent aussi produire prudence, adaptation ou résignation. Il ne suppose pas non plus que la libération soit mécaniquement garantie par une bonne volonté coloniale. En montrant comment les issues individuelles sont bloquées, Memmi explique pourquoi le conflit politique devient collectif et pourquoi indépendance prend la forme d'une nécessité historique dans le cadre colonial. En dernier lieu, les valeurs refuges après la libération posent un problème politique durable. Le livre ne s'arrête pas à la condamnation du colonialisme ni à la nécessité de la révolte. Memmi examine aussi les tensions qui accompagnent la formation d'une identité nationale sous domination. Face à une puissance qui a déprécié langue, coutumes et croyances locales, le mouvement de libération cherche des ressources de cohésion. Il peut alors valoriser fortement la tradition, la famille ou la religion. Ces valeurs refuges ont une fonction compréhensible, elles offrent une continuité symbolique et un langage commun contre la négation coloniale. Mais Memmi souligne leur ambivalence. Lorsqu'elles deviennent intouchables ou sont utilisées comme critères exclusifs de appartenance, elles peuvent limiter la critique interne, marginaliser certaines voix et enfermer la société indépendante dans une définition défensive de elle-même. Cette réserve distingue son analyse d'une célébration simple du nationalisme. La décolonisation doit rompre avec la domination, mais elle doit aussi éviter de reproduire des formes de fermeture, de hiérarchie ou de dépendance intellectuelle. La question décisive est donc celle de après, comment construire une vie politique autonome sans faire de la culture blessée un instrument de rigidité. Cette réflexion donne au livre une portée qui dépasse le moment de indépendance et invite à examiner les difficultés concrètes de la reconstruction sociale, culturelle et institutionnelle. En conclusion, Portrait du colonisé précédé de Portrait du colonisateur convient au lecteur en histoire coloniale, philosophie politique, sociologie, études postcoloniales et sciences de l'éducation, ainsi qu'à toute personne cherchant un cadre exigeant pour comprendre les rapports entre privilèges, racisme et dépendance. Sa lecture apporte un bénéfice intellectuel précis, elle oblige à déplacer le regard des intentions individuelles vers les structures qui distribuent les droits, les ressources et la considération. Elle aide également à penser ensemble les effets matériels de la colonisation et les effets sur les identités, sans réduire les populations dominées à une passivité ou les populations dominantes à une simple caricature morale. Le texte demeure utile pour interroger les héritages coloniaux, à condition de le situer dans son contexte de décolonisation et de ne pas appliquer mécaniquement ces catégories à toute inégalité contemporaine. Par rapport à des ouvrages plus historiques, Memmi se distingue par une construction en miroir, les deux portraits ne sont pas séparés, car chacun révèle la dépendance de l'autre au sein du même système. Par rapport à des essais uniquement théoriques, son écriture reste relativement directe et son raisonnement part de contradictions sociales observables. Enfin, sa réflexion sur assimilation refusée et sur les risques des valeurs refuges donne au livre une portée critique double. Il analyse la violence coloniale tout en questionnant les difficultés politiques qui peuvent suivre la libération. Si vous souhaitez soutenir Albert Memmi, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.